France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Polony-Finkelstein, la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à gauche dans le camp écologiste ces derniers jours. Et la victoire, les écologistes qui ont enfin un candidat à l'élection présidentielle.
Moi, je voudrais dire ma fierté du mouvement écologiste et des plus de 120 000 personnes qui ont participé à cette primaire écologiste, des débats de qualité qui ont montré que les écologistes ont des solutions pour les Françaises et les Français. Et donc, c'est ma fierté de porter les couleurs de l'écologie, mais avec un seul objectif. Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner.
On ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner. C'était Yannick Jadot, 20h de France 2, ce mardi. C'était ses premières déclarations en tant que candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, à l'issue d'une primaire très serrée, avec 51% des voix devant Sandrine Rousseau. L'écologie, c'est la première préoccupation des Français, mais quelles leçons tirer de ces primaires, Gilles ?
Alors, c'est une des premières préoccupations des Français, puisque il y en a plusieurs qui sont à peu près au même niveau. Dans à peu près tout parti, à un moment ou à un autre, lorsqu'il s'agit de choisir le candidat à l'élection présidentielle, on se trouve confronté à deux logiques. Une logique électorale, quel est le candidat qui a le plus de chances de l'emporter ou de faire un bon score, et une logique qui est plus une logique d'identité du parti, quel est celui qui représente le mieux les valeurs du parti. Ça a été vrai dans d'autres formations politiques à d'autres moments, et c'est à nouveau ce choix-là auquel ont été confrontés les sympathisants et les électeurs de cette primaire, d'autant plus que Yannick Jadot a choisi, et c'est ça qui est intéressant, une stratégie qui était une stratégie assez audacieuse. Il est sorti pendant toute cette pré-campagne du champ de seulement le discours sur l'écologie pour aller sur un territoire sur des questions régaliennes. Il a pris sur les questions républicaines des positions qui n'étaient pas nécessairement en phase avec celles des militants de son parti. Il a assumé d'avoir une personnalisation de sa campagne, ce qui n'est pas là aussi dans l'ADN du parti. Et donc, je crois que c'est vraiment une belle victoire pour lui, très serrée, vous avez raison, mais c'est une belle victoire par rapport à ce qu'est l'histoire d'Europe Écologie Les Verts et de ce qu'avaient donné les primaires précédentes, par rapport à ce qu'ont été les résultats du premier tour qui étaient décevants, et même par rapport à ce qu'a été la campagne de l'entre-deux-tours où j'ai trouvé que dans les débats qui les opposaient, la performance
Yannick Jadot et Sandrine Rousseau,
la performance télévisuelle, l'impact de Sandrine Rousseau était fort. Et donc, c'est une victoire serrée, c'est une belle victoire pour lui. Maintenant, un pas a été franchi, il y en a beaucoup, beaucoup devant.
Natacha Polony.
C'est en effet une victoire très serrée qui nous raconte que l'identité d'Europe Écologie Les Verts repose sur le gauchisme culturel et que Sandrine Rousseau incarne la logique ultime de ce gauchisme culturel, c'est-à-dire le fait que l'écologie n'est qu'une déconstruction parmi d'autres. Et elle inclut l'écologie dans l'idée de déconstruire l'ensemble des structures qui aujourd'hui sont celles héritées d'une civilisation, d'une tradition. Donc il faut déconstruire le mâle, par exemple.
Le patriarcat.
Elle nous a expliqué que son homme à elle était déconstruit, ce qui est déjà tout un programme. Voilà. Et en fait, l'écologie n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est ça qui est apparu dans sa campagne. C'est une façon de voir l'écologie qui est, je le disais, la logique ultime d'Europe Écologie Les Verts dans son origine même. Et Yannick Jadot, de ce point de vue-là, en effet, se situe ailleurs. Moi, c'est la première fois que j'entends un candidat écologiste terminer un discours par « Vive la République », avec, à la fin de ce discours, des éléments assez intéressants d'ailleurs, puisque en gros, après avoir expliqué que son camp, son projet, l'écologie, passait par l'amour du beau, du plaisir, c'est quand même assez intéressant de mettre cela en avant. C'est la réponse à tous ceux qui parlent d'écologie punitive. Et ensuite, il dit, le but est de reprendre le contrôle de nos vies, take back control. Donc, on est véritablement dans la mémoire de tout ce qui s'est passé ces dernières années et même du Brexit. Et après, il enchaîne sur la souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, etc. Donc là, il y a des messages qui, évidemment, dépassent largement Europe Écologie Les Verts. Tout le problème, ça va être pour lui, justement, de se détacher de ce qui ramène Europe Écologie Les Verts a son côté groupusculaire. Sa grande chance, c'est que Sandrine Rousseau est tellement radicale que ce qu'on entrevoit depuis quelques jours, c'est la possibilité même qu'elle ne soutienne pas Yannick Jadot pendant cette campagne. Et je pense que plus tôt ça arriverait, mieux ce serait pour un Yannick Jadot qui sinon serait réentraîné dans ce qui empêche beaucoup de citoyens de considérer qu'Europe Écologie Les Verts est un parti de gouvernement.
Gilles ?
Je trouve difficile de dire que l'identité du gauchisme culturel l'a emporté, dans la mesure où Yannick Jadot...
J'ai pas dit que ça l'avait emporté.
Non, non, d'accord. Alors, ça a pesé, 49%, et ça va peser, et c'est le dilemme devant lequel, dilemme là aussi classique après une primaire devant lequel se trouve Yannick Jadot, c'est soit essayer de rassembler au risque de concéder des éléments de son identité et du discours républicain qu'il avait tenu, ou rassembler, ou tenir sur son discours au risque de ne pas rassembler l'ensemble de la famille. Là, c'est
mais classique. Il a rappelé qu'il avait fauché des OGM, il a rappelé qu'il était directeur de campagne de Greenpeace France et qu'à ce titre, il avait mené des actions spectaculaires et au risque de son intégrité physique contre des pêcheurs de thon, par exemple. Il a revendiqué aussi une forme d'action radicale pour ne pas paraître comme le candidat centriste d'Europe Écologie Les Verts.
Évidemment, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement s'il voulait l'emporter que de rappeler ce qui correspond aussi à une réalité de sa biographie. Donc il a ce dilemme classique, et puis il a aussi un certain nombre de défis personnels, à la fois en termes de notoriété et de crédibilité, de défis politiques, et ça, on va en parler sans doute pendant des mois et des mois, c'est que l'espace politique sur lequel il est aujourd'hui saturé dans la mesure où il est assez proche sur beaucoup de sujets, et ses électeurs sont assez proches sur beaucoup de sujets de ceux d'Anne Hidalgo et des électeurs socialistes, avec cette difficulté qu'ils n'ont pas réussi à trouver une procédure commune pour désigner un candidat, et que donc c'est difficile après que Europe Écologie Les Verts désigne son candidat et explique gentiment à la candidate socialiste qu'elle doit se retirer. Donc je ne sais pas ni si, ni quand, ni comment un chemin pourra se dégager. Ce dont je suis certain, c'est que ce ne s'est pas aujourd'hui et que ce n'est pas comme ça.
Le sait-il lui-même, Natacha. Et on passe au prochain sujet.
Objectivement, pour l'instant, cette primaire lui donne une dynamique que n'a pas Anne Hidalgo, que n'a pas non plus d'ailleurs Arnaud Montebourg, hein, qui est sur un autre créneau idéologique. En revanche, je disais qu'il y avait une part de gauchisme culturel, je veux dire par là que je différencie ça de la radicalité écologique. Je pense que Yannick Jadot a eu raison de rappeler sa propre radicalité écologique, parce que il y a dans la démarche même de mettre l'écologie au cœur du politique, une nécessaire radicalité, puisqu'il faut changer le système économique. C'est pas du tout la même chose que ce qui est contenu dans le programme d'Europe Écologie Les Verts. Et toute la question va être de savoir si Yannick Jadot va s'appuyer totalement sur ce programme ou essayer de le faire oublier. Mais dans le programme d'Europe Écologie Les Verts, il y a des choses sur la régularisation de la totalité des sans-papiers, sur la défense des droits des personnes LGBTQI, même dans la formation des enseignants, la question des enfants transgenres, etc., etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une radicalité écologique.
La route est longue et on la suivra en tout cas. On passe au sujet suivant.
Le grand face-à-face, le duel.
Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. La peine d'amende qui a été prononcée par cette juridiction est de 100 fois le montant de l'amende, ce qui justifie en soi que le tribunal ne la prononce pas. C'est la raison pour laquelle le président Sarkozy m'a demandé d'aller faire appel, et naturellement, le jugement ne sera pas exécutoire.
C'était l'avocat de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, à la sortie de la salle d'audience du tribunal de Paris. Jeudi, Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an de prison ferme dans le cadre du financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012, le dossier Big Malion, comme on dit, une décision dont il a aussitôt fait appel. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur la campagne à droite, Natacha ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, un ex-président de la République condamné pour la deuxième fois à un an de prison ferme, c'est absolument majeur comme information. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions, parce qu'elles sont de divers ordres. J'exclus les réactions politiques de son propre camp sur le mode de l'indignation, avec tous ses anciens ministres et candidat potentiel à l'élection présidentielle qui éprouve le besoin de dire que c'est absolument monstrueux parce qu'ils savent à quel point Nicolas Sarkozy est encore populaire dans l'électorat de droite qu'il vise. Ça, c'est une dimension purement politicienne. Non, en revanche, il y a des commentateurs qui analysent la décision de justice en elle-même en expliquant que, comme celle sur l'affaire Bismuth, elle relève d'une forme d'un choix des juge d'être particulièrement sévère. Le dossier Big Malion n'est pas celui...
Vous dites un choix des juges.
C'est un choix, c'est une décision. Ils ont choisi d'être sévères. Et je pense pour ma part que l'argument qu'ils utilisent, qui est l'argument de l'exemplarité, ne me semble pas à exclure. Je pense que l'idée de dire que un politique a un devoir d'exemplarité, ce que dit le juge là en l'occurrence, c'est l'idée qu'il y a une forme de déception des attentes légitimes des citoyens et en fonction des décisions du législateur, ça me semble tout à fait justifié. Mais j'entends aussi ceux qui, sur des règles de droit, viennent expliquer qu'on a reconstruit l'intentionnalité sans pouvoir la démontrer véritablement. Est-ce qu'on peut prouver que Nicolas Sarkozy était au courant ? Cela dit, dans tous les jugements, on reconstruit cette intentionnalité et on considère que, étant donné le faisceau de présomption, il ne pouvait pas ne pas savoir, ça fait partie d'un jugement de décider cela.
Gilles Finkelstein.
Oui. Je veux pas revenir sur les réactions, notamment les réactions de la droite dont on voit bien les motivations qui les animent, mais sur l'affaire elle-même. Parce que l'affaire Big Malion est une affaire extrêmement grave, en ce sens qu'elle est venue altérer, ou qu'elle a risqué d'altérer, l'équité d'une élection présidentielle. Une élection présidentielle, en France, a des règles, et ce qui sont plutôt de bonnes règles par rapport aux autres pays. Il y a un financement public et il y a un plafond. En l'espèce, dans la campagne de 2012, ce plafond n'a pas été dépassé un peu. Il n'a pas été dépassé beaucoup. Il a été dépassé énormément. C'est-à-dire que c'est quasiment le double de ce qui est autorisé, qui a été dépensé dans cette courte campagne.
20 millions.
Bon, 20 millions d'euros.
Le Conseil constitutionnel n'a pas validé les comptes et la justice a réussi à mettre au jour tout ce qui avait été fait pour que cette fraude puisse être organisée. Elle a condamné là les acteurs. Reste Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est choquant ? Oui, c'est choquant au sens où ça provoque un choc que un ancien président de la République soit condamné et condamné pour la deuxième fois à une peine de prison ferme. Évidemment que c'est choquant. Est-ce que c'est choquant que ça intervienne 10 ans après ? Là, la réponse est non, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice de ses fonctions et après considérer que c'est trop long. Est-ce que ça aurait été choquant qu'il ne soit pas condamné au motif qu'il est ancien président de la République ? Oui. Bon, et donc...
Mais on cite le précédent de Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, qui avouait avoir validé des comptes de campagne qui avaient totalement dépassé les plafonds, ceux de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur en 1995, comme si c'était une tradition qu'on aurait pu respecter.
Alors, ce n'est pas une tradition, pour moi c'est une trahison de ce qu'est la mission du Conseil constitutionnel, et cette affaire Big Malion est incompréhensible. Soit le président savait, et c'est le jugement en première instance du tribunal, on verra ce que dira l'appel, et c'est incompréhensible. Soit il ne savait pas, et c'est incompréhensible aussi.
Natacha.
Oui, on peut ajouter que, d'après les calculs qui sont faits, en gros, le 31 mars au meeting de Versailles, il avait utilisé l'ensemble de l'argent prévu pour sa campagne, que donc, et c'est ce qu'a estimé le législateur, que Nicolas Sarkozy, ayant l'habitude de campagne présidentielle, ne pouvait pas ignorer que l'organisation de meeting coûte très cher, et donc le juge a considéré que c'était un petit peu facile de se dire qu'on n'était pas au courant, qu'on ne savait pas et qu'on ne s'occupait pas de ces choses-là. Donc là où je rejoins Gilles, c'est en effet que la question du financement des campagnes, dans la mesure où on voit une pression pour aller vers un modèle américain de dépenses somptuaires, la question du financement des campagnes est extrêmement importante. Après, le rapport entre le juge et le politique est à poser plus généralement, et il faudrait que ça nous permette, qu'on puisse le faire en sortant du cas Nicolas Sarkozy, qui est quand même très spécifique.
Alors, on a vu de nombreux membres d'LR, d'anciens ministres de Nicolas Sarkozy, le soutenir essentiellement sur les réseaux, sur les chaînes info. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence, Gilles, sur la campagne à droite, puisque les Républicains n'ont toujours pas de candidat désigné pour les mener à la présidentielle?
La droite est aujourd'hui dans une situation extrêmement paradoxale. Elle va très mal et elle peut gagner.
Ah oui.
Elle va très mal parce qu'elle est, épuisée. Il n'y a pas eu une idée nouvelle. Elle est étouffée par Emmanuel Macron. Elle est divisée. On le voit chaque jour. Mais elle peut gagner. Elle a tenu électoralement bien dans les élections, locales depuis
les régionales, depuis 2017. Les municipales.
Et là, elle est dans le match. Donc c'est ce paradoxe. Mais pour gagner, il faut qu'elle résolve deux problèmes et on voit toute la difficulté dans la période. Le premier, c'est sur le choix du candidat, on l'évoquait. Elle aurait pu choisir une solution simple. Elle a fait une grande enquête auprès des sympathisants de droite. Xavier Bertrand sort quand même assez nettement comme étant celui qui a le plus de chances. Après, les personnes interrogées peuvent ne pas faire le bon pronostic, mais si ce sondage servait à ça, il eût été simple de dire le sondage dit ça, la direction du parti, comme elle le fait en Allemagne, se réunit, elle choisit un candidat et l'affaire est réglée.
Oui.
Ils ont choisi une solution plus compliquée, peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais avec une procédure qui est longue, une procédure qui est aléatoire. On verra à la fin.
Et avec des candidats qui ne sont pas officiellement membres du parti.
Oui, et on verra à la fin si c'est très intelligent ou si c'est très stupide. Et puis le deuxième problème, et je vais vite, c'est un problème de positionnement, et il a été posé de manière éclatante avec les difficultés des différents responsables de LR face au cas Éric Zemmour. Là aussi, il y avait un choix d'évidence qui était la clarté. C'est une frontière infranchissable entre Éric Zemmour et eux. C'était logique par rapport à ce qu'est l'histoire du parti gaulliste et ses valeurs. C'était son intérêt d'un point de vue électoral. C'est exactement le contraire qui s'est passé. On est dans la confusion la plus extrême. Est-ce qu'il peut participer aux primaires? Est-ce qu'il est d'extrême droite? Est-ce qu'il est raciste? Ils ont été incapables d'avoir une ligne commune là-dessus. Leur seul champ, et ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté depuis très longtemps, notamment lorsque Laurent Wauquiez était à la tête du parti et qu'il invitait Éric Zemmour, il y a eu trop peu d'anticipation de la situation présente. Leur chance, c'est que l'élection présidentielle est encore loin.
Natacha.
Gilles, il y a
un
mot prononcé qui, en fait, résume tout cela, une expression, le parti gaulliste. Mais ça fait des années, des décennies même, que l'UMP, d'ailleurs l'UMP n'a jamais été un parti gaulliste, le RPR pouvait l'être, mais l'UMP c'est la fusion d'un parti supposé encore gaulliste et d'un parti anti-gaulliste. Et en fait, ce que vous venez d'expliquer, c'est exactement le résultat de cela. C'est-à-dire que parce que ce parti n'a jamais réglé ses problèmes idéologiques, n'a jamais pensé les fractures, et en particulier celles de l'Europe qui en fait le renvoie à son origine gaulliste, c'est parce que ce parti n'a jamais réglé ça qu'il s'est retrouvé avec, en effet, les deux candidats principaux aujourd'hui qui ont quitté le parti parce qu'ils considéraient que Laurent Wauquiez l'emmenait beaucoup trop à droite. Bien sûr, avec aujourd'hui une part de ce parti qui du coup se sent orpheline parce que justement Wauquiez n'est pas candidat, parce que Bruno Retailleau n'est pas candidat, et qui donc peuvent aller lorgner du côté d'Éric Zemmour. Tout cela, c'est le fruit d'une histoire qui est une histoire d'instrumentalisation de ce parti par Nicolas Sarkozy. C'était une machine faite pour gagner en agrégeant des poules et des canards. Et c'est aussi un problème d'absence totale de réflexion sur l'état actuel de la France, de diagnostic de ce qui aujourd'hui crée les fractures qui permettent à Éric Zemmour d'être là où il en est. Tout cela n'est pas pensé.
Et on en parlera d'ailleurs avec Nicolas Bavrez, puisque c'est l'un des sujets de son livre. Mais la rupture avec Éric Zemmour, c'est vrai qu'elle est frappante dans un parti qui se réclame du gaullisme quand on entend Éric Zemmour réhabiliter le maréchal Pétain, le gouvernement de Vichy, au nom du fait qu'ils auraient, et je mets bien conditionnel, protégé les juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Juste une phrase, Natacha a raison de dire que l'UMP ou LR n'est pas un parti gaulliste, en revanche, c'est un parti chiracien. Au sens où c'est un parti qui a été créé par Jacques Chirac.
Et bien, encore faudrait-il se demander si Jacques Chirac a été gaulliste plus que quelques mois dans sa jeunesse.
La fidélité, la simple fidélité à Jacques Chirac devrait conduire à fixer
bien
une
sûr,
frontière
mais ça,
infranchissable avec Éric Zemmour.
Jacques Chirac avait lui-même tellement brouillé les cartes.
Le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
C'est pas du chantage, c'est un rapport diplomatique où on avance avec nos armes. Ça fait des années qu'il y a un certain nombre de pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, ou en tout cas qui ne font pas les démarches, qui ne diligentent pas les démarches qui permettraient de faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants, qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires. Et donc il y a un certain nombre d'outils qui sont à la disposition de la France.
C'était Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté sur France Info ce mercredi. Elle employait donc ces mots d'armes, de rapports diplomatiques pour décrire les relations entre le gouvernement français et les gouvernements tunisiens, marocains et algériens, puisque la France a décidé de durcir les conditions d'obtention des visas de ces ressortissants des pays maghrébins qui souhaiteraient se rendre en France. Durcissement décidé en réponse au refus, selon le gouvernement français, de ces trois pays de délivrer des laissez-passer nécessaires au retour de leurs ressortissants qui aurait été refoulé de France, mais cette situation n'aurait pas vocation à durer, a précisé la ministre Natacha Polony. Comment expliquer cette relation qui se durcit dans un contexte qui n'est pas neutre, puisque les frontières ont été longtemps fermées à cause de la crise du Covid? Est-ce que c'est parce qu'on est rentré en campagne électorale, tout simplement?
Oui, j'allais dire, la situation n'a pas vocation à durer, elle a vocation à durer juste le temps de la campagne électorale, parce que sinon, la question des laissez-passer consulaires, on la connaît depuis très très longtemps. On va résumer, là, si je ne me trompe, les chiffres sont pour 2019. Pour les ressortissants algériens, 7731 obligations de quitter le territoire français prononcées contre des ressortissants algériens, certains pour, vous voyez par exemple, des prêches d'imams radicaux, ce genre de choses, de la délinquance. 22
pour
acceptés.
Pour les titres de séjour expirés.
Aussi. 22 acceptés par l'Algérie. Le Maroc, 3301 OQT prononcées, 80 acceptés. La Tunisie, 3424 prononcées, 131 acceptées. Donc ce problème dure depuis longtemps et il est amplifié par le fait que la France a des accords bilatéraux avec ces pays-là. Donc, parmi les problèmes qui aujourd'hui tournent autour des questions d'immigration, il y a cet argument qui revient très très souvent, les gens qui ont vocation à ne pas rester sur le territoire français y restent. Et ils y restent parce que les pays d'origine refusent leurs propres ressortissants. Donc, on connaît ce problème, il s'agit de mettre en place un rapport de force, et dans un rapport de force, il y a un dialogue avec l'autre pays. Que ça advienne maintenant de cette façon-là, en revanche, démontre à quel point il y a une absence de réflexion de fond sur ce que doit être une politique migratoire.
Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir aussi sur ce sujet?
Oui, évidemment, il y a le contexte et le contexte électoral qui vient expliquer, mais je pense que si on repart quand même un cran en arrière, c'est-à-dire des principes. Dès lors que l'on considère qu'il est légitime qu'un État, qu'une nation fixe des règles pour la migration, cette question-là, elle peut être contestée. Hein. Et il y a un certain nombre d'associations, un certain nombre d'intellectuels qui, en réalité, ont du mal à accepter cette règle-là. Si on regarde ce que sont les règles dans notre pays, à la fois pour le regroupement familial, pour les étudiants étrangers, pour le droit d'asile. Ces règles aussi sont discutées, c'est même le cœur de la pré-campagne présidentielle, puisque chacun rivalise pour d'idées, pour changer qui la Constitution, qui faire un référendum. Moi, je considère que dans l'ensemble, ces règles-là sont bonnes. Et donc, si on accepte ces deux prémices-là, la conclusion, c'est que il est légitime que des personnes qui ne rentrent pas dans ces règles-là soient reconduites dans leur pays. Si on accepte tout ça, si on accepte tout ça, qui est humainement insupportable, qui est techniquement très complexe, mais je pense qui est philosophiquement incontournable. À ce moment-là, il faut rentrer dans la pratique. C'est ce que disait Natacha Polony tout à l'heure, c'est-à-dire que on est face à un problème majeur, au sens où les obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, ne sont pas respectées.
elles le sont plus mal en France qu'ailleurs, elles le sont plus mal dans les pays du Maghreb que dans les autres pays. À partir de là, oui, ce qui s'est passé, c'est que Marlène Schiappa a dit c'est un rapport diplomatique, c'est pas un rapport diplomatique, c'est un rapport de force. On fait une pression sur les États du Maghreb pour que, en échange d'une réouverture des visas, eh ben ils donnent des laissez-passer consulaires qui permettent à ces expulsions. Le problème, évidemment, c'est que ceux qui sont visés, ce sont les États, ceux qui vont être touchés, ce sont les populations. Donc, je suis pas sûr que l'outil visa soit le meilleur. En revanche, que l'on fasse des pressions sur les États, et c'est vrai, pas seulement des États du Maghreb, qui ne font pas de laissez-passer consulaires, ça me paraît légitime.